Avoigny. Cette semaine, Dany Le Gras rencontre Denis Lavant. Ce soir, beauté du geste, sens du corps.
Bonsoir Denis Lavant.
Bonsoir.
Denis Lavant, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine, les 17 juin 1961.
Eh oui.
Vous êtes un comédien français au parcours sinueux et très dense, dont les cheminements est marqué par les déplacements incessants entre les cinémas et les théâtres, qui vous considérez comme l'un des seuls endroits de l'existence où l'on peut être dans les présents. Vous entamez vers l'âge des 13 ans des cours d'expression corporelle, et puisque vous êtes très tôt fasciné par la dimension poétique des arts du cirque, vous essayez d'en apprendre quelques disciplines en autodidacte, comme les jonglages, les monocycles, l'acrobatie au sol et la pantomime. Pantomime qui a été par ailleurs votre premier moyen d'expression, car à cette période, il me semble que vous n'étiez pas tout à fait à l'aise avec les mots.
Oui, j'ai mis du temps à apprivoiser le langage, quoi.
Alors, c'est très surprenant, Denis Lavant, de vous imaginer entravé par les mots, vous qui faites corps avec la parole depuis si longtemps et qui êtes habité par la poésie. Pourquoi une telle méfiance ?
Je reste toujours assez défiant par rapport au langage, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup moins maîtrisé que le mouvement, en fait. Le mouvement, on le détermine, on sait à peu près ce qu'on fait, on dose l'énergie d'un mouvement. La parole est quelque chose d'émotionnel qui entre en fonction avec, et dans la création de la parole. Il y a quelque chose de physique et de psychique en même temps qui est insaisissable. La parole, elle donne lieu à des lapsus linguae, comme on dit. Quoi, j'ai été à bonne école parce que, comme ma mère faisait des études pour être psychologue, quand on était en bas âge, on a servi un peu de cobaye à tout ce genre de langage. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est redoutable et en même temps qui détient une vérité humaine merveilleuse. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie dans la parole, plus encore que dans la gestuelle, même si dans la gestuelle, dans la danse, il y a quelque chose aussi qui peut être chamanique, qui peut être une ritualisation et un rapport magique au monde. Je trouve que dans la parole, il y a quelque chose qui est de l'ordre du merveilleux, qui est une force, qui est en fait une action en soi. C'est-à-dire, on peut transformer des gens par la parole, on peut faire du bien, on peut faire du mal, on peut donner de l'information. C'est quelque chose qui vient de très loin. En fait, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Et pour moi, je peux analyser sur la parole un petit peu mieux maintenant. Mais quand j'étais enfant, j'étais un peu dans une forme d'inhibition, vous voyez.
Elle vous trahit, hein?
Elle me trahit, ou elle, je ne sais pas si c'est une trahison ou au contraire. Et en tout cas, une rétention de la parole. Je pensais beaucoup et j'écoutais parler autour de moi. Et des fois, j'avais quelque chose à dire, j'avais une pensée, mais je n'osais pas l'exprimer. Je disais, ça vaut pas la peine. Et puis, quand je me mettais à me dire, bon, je vais le dire quand même, il était beaucoup trop tard. Et donc, ça tombait, c'était en porte-à-faux, quoi. C'était hors sujet, c'était devenu obsolète un peu ma prise de parole. Ce qui a fait qu'on m'a beaucoup traité de rêveur. Et j'ai adopté cette attitude de rêveur aussi. Et après, j'ai... disons, apprivoiser la parole par le théâtre, par la poésie, en ayant des exemples, en ayant des aînés que j'ai entendus qui façonnaient la parole, et surtout la parole poétique, des voix comme celle de Reggiani, quand il dit des poèmes, comme celle de Jean Villard aussi, que j'ai pu entendre, de Jouvet, de Malraux, de Michel Simon, de Céline, toutes ces voix qui incarnent très fort par le verbe.
On va y revenir sur la poésie. Quand vous parlez de vos débuts, Denis Lavant, vous mentionnez parfois Carlo Bozzo,
oui,
acteur et metteur en scène de la Commedia dell'arte, issu de Piccolo Teatro de Milano, auprès duquel vous avez fait un stage fondateur.
Plusieurs stages.
Vous dites que c'est avec lui que vous avez appris les bases de votre métier, beaucoup plus que dans les écoles conventionnelles.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire, Denis Lavant, que la Commedia dell'arte est inscrite dans votre ADN théâtral? Et en quoi ces passages a-t-il été déterminant pour vous ?
Pour moi, j'ai trouvé des fondements un bon travail, qui retentissent toujours, quoi, qui sont là, qui me portent, qui me tiennent. En fait, ça s'est passé très simplement. J'étais encore au lycée, en banlieue, au lycée Marie Curie. J'ai commencé à faire du théâtre au lycée La Canale, où il y avait un prof d'histoire géo qui s'appelle Michel Fragonard, qui initiait un groupe de théâtre, où on jouait, vraiment en amateur, dans une très grande liberté de proposition. Et c'est là que j'ai pris d'abord le goût pour le théâtre, en me disant, plus que le mime ou que le cirque, je me dis, ah, je vais faire ça. C'est là que j'ai envie d'être. Et j'ai vu qu'il y avait une annonce pour un stage, qui se faisait dans le quartier du Bon Marché, je crois, avec Carlo Bozzo, stage de comédia dell'arte, où il y avait la promesse d'apprendre à jouer avec des masques, un training d'acrobatie, de danse, d'échauffement de la voix. Et je me dis, c'est exactement ce qu'il me faut. Et je me suis pointé au premier jour du stage avec un grand espoir de résoudre mes problèmes de d'expression, de trouver une voix. En fait, chaque occasion, on cherche une voix, quoi. On cherche une issue, une possibilité, quelque chose qui va vous enrichir ou qui va être déterminant. Je me dis, c'est ça qu'il me faut. Le programme de ce stage, ça me convient à ravir. Et le stage était complet. Et donc, je suis arrivé et je me suis présenté. J'avais 15, 16 ans. Et j'ai été voir Carlo. J'ai dit, voilà, en fait, j'aimerais beaucoup faire le stage. Mais c'est pas possible, c'est complet. Mais tu peux rester pour assister à la séance. Donc, j'ai assisté. Et comme il faisait des entraînements, des échauffements physiques, c'est une chose que je comprenais très bien, je me suis mêlé au groupe à faire les échauffements, comme ça, mine de rien. Et puis après, à la fin de la séance de stage, il faisait une séance d'improvisation, et je ne sais plus sur quel thème, et il y a Carlo qui m'a fait le plaisir de me dire oui, vas-y, tu peux participer jusqu'au bout. Et donc j'ai improvisé un truc sans doute avec beaucoup d'énergie. J'ai grimpé au mur, quoi, j'ai fait une chose un peu époustouflante comme ça. Ce qui fait qu'au bout du compte, il y a Carlo qui m'a dit ah, si tu veux, tu restes au stage. Et voilà. Ça a commencé comme ça et j'ai pu profiter de ce premier stage, puis d'un deuxième et d'un troisième. J'ai dû faire 4 stages avec Carlo.
Donc c'était tout de suite une évidence pour vous.
Ah oui, parce que c'était une énergie qui me convenait parfaitement. Et c'était un mode d'expression dont j'avais besoin, qui est pas le mode d'expression plus cérébralisé du théâtre que j'ai pu trouver avec les professeurs qu'il y avait au conservatoire. C'est quelque chose de forcément grand, large. Et moi, j'avais besoin de toute cette énergie. Et si vous voulez, dans le rapport à la parole, au départ, quand j'ai commencé à jouer, mon embarras avec le texte faisait que je me cassais la voix, souvent parce que je voulais tout exprimer en même temps, par le geste, par la voix, et j'arrivais pas à trier les choses, quoi, à organiser ma pensée, à organiser mon expression. Et pour moi, ça a été fondateur, le travail avec Carlo, quoi, les plusieurs différentes séances de différents stages, parce que c'est quelqu'un qui a une grande générosité, qui a une très belle observation des individus, des apprentis comédiens, et qui sait exactement, qui sait nommer les endroits où ça bloque. Et donc, c'est l'idéal pour avancer, c'est de se libérer d'entraves. Et moi, je me souviens qu'il y avait une chose très claire à laquelle je repense souvent, c'est que je faisais Arlequin. J'étais un peu comme ça, on m'avait proposé le rôle d'Arlequin, ça me convenait bien, ce masque comme ça, de serviteur, dans Arlequin, serviteur de maître, qui est très affairé, qui est très vif, qui va à droite, à gauche, comme le fou. En fait, qui se déplace comme le fou aux échecs, parce que tous ces masques étaient un peu codifiés, leur déplacement assez codifié, dans tout le travail qui avait été fait avec... comment il s'appelle déjà ? Oh là, ça y est.
Votre mémoire vous joue des tours, c'est normal.
Mais une mémoire des noms, surtout. Je suis très l'air, excusez-moi. Qui a réinitié un peu cette pratique de la comédia dell'arte hein, en créant Arlequin serviteur de 2 mètres de Goldoni au Piccolo Teatro di Milano. Et donc, l'Arlequin, c'est vraiment le fou aux échecs. Et qui est comme ça, qui est tout le temps sur une jambe, sur l'autre, comme ça. Et qui a des mains dans la ceinture. Vous voyez la pose un peu qu'on voit sur les gravures d'Arlequin avec le bide en avant, comme ça. Et puis, le petit chapeau, comme ça, en bicorne, un peu. Une main sur la ceinture. Et moi, j'ai tendance à faire les mains sur la ceinture, donc à hausser les épaules. Forcément, ça me donnait ça à ce moment. Et Mais ça bloque aussi tout le haut, quoi. Toute l'émission de la voix, toutes les voies aériennes, quoi. Et donc, une des choses que Carlo m'a dit, c'est baisse les épaules. Et elle est, ah, ok, d'accord. Et parce que moi, ah, voilà. Il y a autre chose qui apparaît, une chose qui se dégage. Et on peut garder la même position, seulement il y a une libération, il y a plus d'aisance. Donc c'est des choses comme ça, physiques en fait. Quand il y a une indication physique, moi je la comprends tout de suite, parce que c'est mon premier langage. C'est un langage de danseur, que je comprends avant le langage psychologique ou le langage sur l'interprétation même d'un personnage. Je pense qu'il y a un rapport précieux. À une chorégraphie d'un personnage. Et c'est là où on a communiqué le mieux aussi, plus tard, avec les Oscarax. C'est beaucoup d'indications comme ça sur un comportement physique.
Denis Lavant, vous avez grandi à Sceaux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans un milieu propice à la culture. Votre père était médecin, pédiatre et grand cinéphile. Oui. Votre mère était psychologue et passionnée de théâtre. Vers vos 17-18 ans, vous vivez votre première aventure théâtrale professionnelle avec la compagnie des théâtres forains, les Baladins du Miroir, avec Nel Paxinou. Avez-vous des souvenirs de cette expérience? Vous avez joué, il me semble, une pièce adaptée d'un conte de Michel de Gelderode.
Exact. Les voyages de Quibucquibus, ou voyage autour de ma Flandre, qui est une sorte de voyage un peu quête philosophique d'un petit personnage qui visite la Flandre. Il est confronté un peu au tableau de Bruegel, en fait, à différentes figures. Et ouais, moi, j'ai des souvenirs très, très forts. C'est-à-dire, je regrette pas une seconde d'être passé par là. C'était ma première année à l'ENSAT. Et j'avais été admis effectivement à l'ENSAT, à la rue Blanche, à Paris. Et bon, enseignement du théâtre classique, mais avec un homme très bien, quoi, Roger Molien, qui est un ancien du théâtre de Villard, du TNP, type très qui était né le même jour que moi, curieusement, 17 juin aussi, pas de la même année naturellement. Et mais déjà, j'étais empêtré de pas comprendre du tout ce qu'on voulait de moi dans un cours de théâtre, comment faire avec ces travails juste de scène, comment organiser, comment trouver des objectifs. Je comprenais en vérité pas grand chose. J'étais un peu donc je travaillais un monologue pour essayer de me débrouiller avec ça, un monologue de Richard III. Okay. Qui est dans Henri VI, un grand monologue. Ouais. Mais c'était comme de la poésie, plus de facilité avec la prise de parole poétique qui est que le dialogue de scène dramatique. Et à ce moment-là, j'ai rencontré des gens qui étaient à l'école du cirque et qui m'ont dit il y a une dame qui cherche des gens qui savent un peu tout faire une troupe de théâtre de rue en Belgique. Et j'ai été passer l'audition. C'était exactement dans mes cordes, de jongler un peu, de marcher sur les mains, de faire un peu de poésie. Et donc j'étais embarqué, donc j'ai pris un an de congé à l'ENSAT directement, et j'ai été pour une saison à Bruxelles. Et c'était un pur émerveillement, parce que il y avait, c'était pour moi, c'était un apprentissage beaucoup plus enrichissant que de rester à Paris dans une école de théâtre, un laboratoire de théâtre comme les écoles de l'ENSAT. Et là, il y avait que des personnages hauts en couleur. Puis c'était la liberté. Je partais de chez moi. J'étais dans la vie active, quoi. Et puis il y avait quelque chose de merveilleux de jouer. On avait un petit tréteau, un camion avec un tréteau et très bien décoré et avec deux escaliers comme ça, vraiment théâtre de le théâtre de foire, quoi. Le théâtre de baladin moyenâgeux et on se posait sur les places et on tout le monde jouait plein de personnages. Le conteur, on se passait tour à tour un chapeau de forme pour faire le conteur. Il y avait un type Marco Taibu qui venait de Paris, qui restait là-bas. Ensuite, ses deux amis qui venaient de Paris, ils ont continué dans cette compagnie, Marco et Benoît. Et lui, il faisait Quibucquibus. C'est un merveilleux mime, type qui avait une expressivité vraiment très belle, une sorte de Pierrot clown. Et donc, il faisait le personnage principal. Et nous autres, on était une dizaine, peut-être un peu moins que ça, 8, 6, j'ai encore des photos, mais où on faisait un peu tous les personnages, toutes ces rencontres-là, où ils croisaient des gens gros comme ça qui n'arrêtaient pas de manger. Chaque fois, il était confronté des aveugles, comme le tableau de Bruegel, des aveugles. Moi, je faisais la mort à un moment donné. Donc, j'utilisais mon monocycle. J'avais une grande cape avec des arceaux, puis un masque, puis un capuchon, et une crécelle et un sifflet comme ça. Et je me baladais autour du truc sur les pavés de la Grand Place à Bruxelles. C'est pas très, très confortable, quoi. En monocycle, sur une roue, ce qui faisait un personnage comme ça, qui glissait sur le pavé. Il y avait un peu d'acrobatie, un peu tout. On faisait la musique aussi. On faisait la parade. Chacun avec des instruments de musique. Moi, j'avais acheté une trompette à l'époque. Et il y avait hélicon, tambour. Et voilà, on faisait vraiment du théâtre de rue à l'ancienne ou comme on en fait maintenant. Mais c'était pas du tout à la mode. À l'époque, c'était pas du tout prisé, quoi. C'était pas, ça apparaissait absurde de vouloir jouer dans la rue alors qu'on est tellement plus confortable dans une salle de théâtre, quoi. Et donc voilà, j'en ai encore plein de sensations, d'impressions. Il y a un ami que je revois encore à Bruxelles, Jacques Cray, qui était un des piliers de cette époque-là, des baladins, et qui est devenu peintre, qui a,
voilà. Bah, en vous entendant parler de ça, j'ai l'impression que ça a été vraiment déterminant pour vous, cette expérience. Et juste après cette année passée en Belgique, vos premiers rôles ont été particulièrement physiques. Je pense notamment à L'Esprit de la Danse, personnage créé des toutes pièces par Antoine Vitesse qui montait l'Orfeo. Dans cet opéra de Monteverdi, vous avez joué un personnage muet qui dansait au milieu de chanteurs lyriques. J'ai l'impression que dès les départs, Denis Lavant, votre corps a été un allié, une sorte de boussole, une espèce d'outil indispensable pour vous, mais dès les départs, comme si c'était quelque chose de très naturel.
Cet instrument, ce moyen qui m'a fait remarquer et qui m'a donné un accès très vite dans le métier à jouer professionnellement. Parce que, effectivement, moi je voulais faire comédien, accéder au texte, mais effectivement j'ai été d'abord pris pour mes capacités corporelles, plus pour mon tempérament de danseur en fait. Et pour moi c'était facile en fait. C'est-à-dire quand Vitesse m'a distingué, m'a fait passer l'audition pour faire L'Esprit de la Danse, c'est-à-dire pour faire un personnage qui faisait un peu du mouvement au milieu des chanteurs qui, à l'époque, bougeaient pas tellement, quoi, étaient plutôt traditionnellement arrêtés et envoyaient la voix, quoi. Et j'ai passé une audition dans une évolution avec, travaillé avec un chorégraphe qui s'appelle Mikos Parenblek, qui m'a dessiné une chorégraphie, de fait, je vais suivre le personnage d'Orphée. Pendant tout le spectacle. Et c'était, mais en fait, ça allait de soi. Pour moi, il n'y avait pas un enjeu extraordinaire. J'avais même pas peur. J'avais pas le trac. J'ai dit, ah, c'est bien. C'était facile. C'était une pure jubilation. D'être au milieu des chanteurs, comme ça, d'être sur scène. Après, j'avais pas du tout, comment dire, je percevais pas du tout la chance que j'avais. Ni la rareté de cette expérience, parce que moi, travailler avec Antoine Vitesse, à des grands hommes de théâtre du XXe siècle, c'était extraordinaire. Et après, forcément, il m'a réengagé quand il a fait Hamlet, encore pour un rôle d'abord physique, puisqu'il s'agissait de faire la reine de comédie, parmi les comédiens qui arrivent à Elsener, la reine de comédie, donc de faire le dans la tradition élisabéthaine, le rôle de la femme qui est fait par un comédien travesti. Et en face de Alain Olivier, qui faisait le roi de comédie, puis deux autres petits rôles. Mais c'est d'abord ça, parce qu'il y avait une petite partition de pantomime. Vous savez, dans Hamlet, il y a d'abord, traditionnellement, il y a la pantomime de la scène qui va être jouée, et après, il y a la scène qui est jouée avec le texte. Donc voilà.
Mais à ce moment-là, vous étiez quand même devant Antoine Vitesse. Là, à ce moment-là, pour jouer Hamlet, vous savez très bien que vous êtes devant un homme de théâtre.
Et oui, mais j'étais dans une inconscience.
Très imposant, avec un historique très impressionnant. Ce qui m'étonne dans votre parcours au début, c'est qu'on n'a pas l'impression que vous avez été pris par la peur. C'était une espèce d'inconscience, comme vous avez dit.
Oui, non. Parce que j'étais épaté, en fait. Je n'avais pas peur parce que j'étais... j'avais envie, je me dirigeais vers ça. C'est le seul choix que j'ai fait dans ma vie réelle, de faire comédien, de partir d'une capacité physique un peu hors norme et d'aller vers la parole et donc de vouloir faire du théâtre. Et même pas du cinéma, je pensais même pas au cinéma, faire du théâtre. Et déjà, d'être accepté dans ce milieu-là, de pouvoir jouer, qu'on me donne la possibilité de jouer, je trouvais ça merveilleux et qu'on me donne de l'argent pour jouer, en plus que d'être payé, quoi, d'être dans cette situation-là, c'était tout ce dont je rêvais, quoi. Ça avait commencé avec les baladins du miroir, de faire partie d'une troupe, puis après, et j'ai quitté les baladins parce que, pour moi, j'étais pas prêt. Et ce théâtre-là, qui était un peu un théâtre naïf, ça me suffisait pas. Je voulais apprendre davantage. Et donc, après, j'ai commencé à jouer en me disant, mais je suis pas prêt. J'ai pas étudié. Je ne sais pas comment ça se passe exactement. En fait, après, je me suis rendu compte qu'on savait jamais exactement comment ça se passait. On bénéficiait d'expériences qui sont enrichissantes, souvent, des fois d'écueils, d'être confronté à un questionnement, à des énigmes, face à des personnages, ou même des metteurs en scène, ou des réalisateurs, ou des partenaires. Mais en même temps, on détient jamais les clés de l'art, du grand art, comme dirait Michel de Guelderoth dans l'école des bouffons, de l'art de jouer. C'est quelque chose qui se définit, c'est un apprentissage perpétuel.
Vous dites quelque chose que j'ai trouvé assez jolie et un peu mystérieuse. Mm-hmm. Je vais vous citer. Vous dites que votre plan de navigation très intime, c'est d'être clown, d'être sur une piste des cirques. Oui. Pourquoi cette fascination envers ces personnages? Qu'est-ce qui vous attire autant dans les clowns, dans les burlesques?
Parce qu'ils sont, comment dire, ils sont absolument marginaux. Et en même temps, ils expriment une poésie humaine essentielle, qui est pas de la poésie écrite, qui est de la poésie incarnée, quoi. Ils incarnent ce personnage de rêveur, je parle de l'Auguste, parce que j'ai d'abord été façonné par l'Auguste, ou par ces personnages qui sont à côté de la plaque, qui se conduisent mal, qui se conduisent de travers dans la société, comme Chaplin dans ses premiers courts-métrages, comme Buster Keaton, comme Harpo Marx, qui sont dans une expression qui est déraisonnable et qui peut être choquante, qui est brutale, mais qui est authentique, quoi, qui provoque le rire, mais qui est pas juste drôle, qui est aussi pathétique, qui sont des personnages de la rue, qui sont des grands marginaux en fait, et qui sont décalés par rapport à l'ordre d'une société. Et effectivement, dans la piste du cirque, il y a ce personnage du clown qui lui-même est décalé par rapport à la perfection des numéros de trapèze, des numéros de voltige, de funambule qui sont sur la piste et qui tombent, qui sont dans la chute. Et il y a quelque chose que moi j'ai toujours adoré chuter, quoi. Parce que je rebondis pas mal encore. Et c'est quelque chose que je me suis adonné volontiers, quoi, déjà au lycée, de me jeter par terre, comme ça, hein.
Il faut savoir chuter. Qu'est-ce qui vous
non,
aimez
c'est,
dans
c'est spontané. Ça, c'est un truc qui s'apprend pas. Moi, c'est spontané. C'est chuter comme ça, de me jeter, puis de. Et instinctivement, j'avais quand même cette ressource-là d'avoir un corps très instinctif qui pouvait me recevoir sans aucun dommage, quoi.
En fait, il y a dans ce que vous dites à propos du clown qui, si j'ai bien compris, est votre personnage ultime. C'est lui qui est vraiment. Vous êtes un peu fait de ça. Il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, mais c'est l'innocence. Et l'innocence, c'est une caractéristique qui est présente dans chacun de vos personnages, que ce soit en théâtre ou au cinéma. Mais même les plus odieux.
Oui, mais c'est disons, effectivement, je me méfie de ce terme d'innocence parce que ça appelle à une sorte d'angélisme, alors que ce n'est pas que ça, quoi. Et pour moi, dans le personnage du clown, il y a l'ange et le diable en même temps. Et ça m'est réapparu très fortement quand j'ai vu récemment une projection des clowns de Fellini, où il y a aussi une grande méchanceté, une grande cruauté. C'est pas des anges, c'est l'humain dans toute sa brutalité et dans toute sa candeur. C'est une candeur, c'est pas une naïveté, une candeur plutôt qu'une véritable innocence. Il y a ce côté rêveur, il y a toujours ce côté d'être aspiré vers les nuages, vers la lune, d'être ce rêveur, ce Pierrot lunaire. Mais le Pierrot, il a aussi son envers, sa face noire, qui est une sorte de malfaisance aussi, qu'on voit très bien, que je trouve qui est formidable dans une scène des Enfants du Paradis, quand on voit Jean-Louis Barrault qui fait Baptiste, qui est au sommet de son art et qui fait cette pantomime de marchand d'habits, où il est jeté d'une fête et à un moment donné, il va devenir méchant, il va vouloir trucider le marchand d'habits pour lui voler un habit pour pouvoir rentrer dans la fête. Donc il y a cette, où même Garance dit, il me fait peur quand il est comme ça. Et il y a cette aussi ce côté bipolaire en fait de pas bipolaire mais anti en tout cas avec toutes les deux pôles effectivement de l'être humain, aussi bien la naïveté, le fait d'être comme un enfant devant chaque chose, d'être dans le présent de chaque chose, mais aussi d'être dans la brutalité de casser et que je trouve qui retentit très fort chez Chaplin aussi. Pas dans ses longs métrages, dans ses courts-métrages. Il y a ce côté punk des premiers burlesques qui est terrible. D'ailleurs, on voit même Laurel et Hardy. Ils sont d'une violence et des fois d'une obscénité rare, quoi.
Bah, à l'instar des enfants, justement.
Et oui, absolument. Pervers polymorphe.
Et justement, je me demande quel enfant, avant les 13 ans que j'ai évoqués tout à l'heure, quel petit enfant étiez-vous? À quel âge est-ce que vous êtes allé au cirque pour la première fois, d'ailleurs?
J'ai été assez, très tôt, très jeune, au cirque. Il y a ma grand-mère qui m'a emmené au cirque. Au théâtre et au cirque et au cinéma, c'est quelque chose dont j'ai pu profiter très, très jeune. Et moi, une des choses qui me faisait, c'est pour ça, je me suis mis très vite à vouloir reproduire ce que j'avais vu dans les cirques. Tout ce que je pouvais faire par moi-même, c'est-à-dire jongler, marcher sur les mains, toutes les petites acrobaties. Et ce qui m'avait le plus fasciné à l'époque, en dehors des clowns, c'est les gens qui faisaient de la voltige à cheval. Ça, je trouvais ça, incroyable. Il y avait une sorte d'énergie, de légèreté, truc, du jamais vu, mais j'ai jamais pu le faire. Parce que j'ai jamais eu de cheval sous la main. J'ai pas pu m'y exercer à l'époque. Simplement, j'ai pu m'exercer des trucs que je pouvais trouver. Des balles pour jongler, des balles pour chier, un monocycle. Mes parents en ont trouvé un à la Samaritaine. Comme quoi, on trouvait vraiment tout à la Samaritaine.
Toujours la Samaritaine, parcours. On y reviendra.
Et puis marcher sur les mains et m'exercer tout seul ou avec ça quand j'étais au lycée quoi, au collège, comme ça m'exercer de faire reproduire ce que j'avais vu au cirque.
Merci beaucoup Denis Lavant. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Dany Legras avec Denis Lavant. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Laurent Macchetti, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.